Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, bonjour. On a rendez-vous avec Marie-Georgette.
Vous
ne savez pas où c'est.
Comment elle a retrouvé, non? Elle vous attend chez elle.
Oui, elle nous attend chez elle,
oui. Oui, oui, en effet, il y a sa petite fille. Bon, c'est au premier étage.
Entrez en tribune, merci.
Merci.
Bonjour. Bienvenue.
Merci.
Je ne vous vois pas.
On vous voit.
Très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents?
Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui, nous allons chez Marie-Jo.
C'est affreux d'avoir 97 ans. Je vais avoir 98 ans dans 3 mois. C'est épouvantable. Je n'ai aucune maladie, sauf les yeux. Je peux traverser tout l'hôtel, etc. Je connais la maison par cœur. Je me déplace complètement toute seule. Je vais aux conférences du 6e. Je vais à la messe, à la chapelle au rez-de-chaussée. Je vais au réfectoire 2 fois par jour. Je me débrouille complètement toute seule, alors que je vois très mal, mais je suis tellement habituée.
Je vous serre pas la main.
Marie-Jo est notre doyenne, une femme que nous avons eu la chance de rencontrer pour de vrai dans son appartement qui donne sur le bois de Boulogne. À 97 ans, elle nous a bluffé par le récit d'une vie si remplie entre sa passion pour le travail et les exigences d'une famille nombreuse. Marie-Jo est aussi une mémoire vivante de la guerre, son témoignage est donc rare et précieux.
Bon, du coup, je vous laisse. Bah oui, bah désolée, ce sera rapide.
Je suis née le 20 janvier 1923 à Paris. Je suis là. 5e enfant de la famille, il y a 4 garçons avant moi, 1 garçon tous les ans. Mes parents se sont mariés tard, ils voulaient beaucoup d'enfants, ils sont mariés, maman avait 34 ans quand elle a eu son premier enfant, mais alors elle en a eu 6 de suite. Je suis une vraie Parisienne, j'ai beaucoup aimé, alors j'ai tout fait à Paris, je suis allée à l'école à Paris, d'abord une plus petite école, ensuite une école moyenne, ensuite je suis allée un peu en faculté à la Sorbonne, pas longtemps. Et après j'ai fait mes études d'infirmière à Paris. Grandir à Paris, je me souviens très très bien, toute petite fille, j'avais 4 frères avant moi, donc ça faisait beaucoup de mouvements dans la maison. J'adorais mes frères, je les ai toujours aimés. Et puis... ben moi, j'ai eu l'âge d'aller à l'école et alors mon père avait mis ses 4 fils dans une très bonne école qui s'appelait l'Institut Sainte-Marie de Monceau. Et puis, quand je suis arrivé à mon tour d'entrer en classe, le directeur a dit « Oh, ben mettez-la en classe, là aussi, mais qu'elle n'aille pas en récréation. » Alors, j'étais toute seule avec 2000 garçons. Mais j'allais pas en récréation, je restais dans la classe. Et je suis restée comme ça 2 ans dans une école de garçons.
Ça faisait quoi de pas aller en récréation? C'était pas horrible?
Non, j'y pense. Maintenant, je trouve ça drôle. Non, parce que la maîtresse était très gentille, j'étais devant elle. Elle avait des livres qui m'intéressaient. Pour pas que je m'ennuie, je lisais des livres. Mais je pouvais pas aller... Les cours de récréation d'une école comme était l'école de mes frères, c'était, je vous ai dit, des centaines de garçons. Je ne pouvais pas laisser cette pauvre fille.
Votre papa, il voulait que ses filles aussi aillent à l'école, c'était important.
Alors mon père, c'était pas un objectif pour lui. Il vivait au fur et à mesure. Il y avait mes quatre frères d'abord, et puis après nous deux. Alors il nous a suivis à l'école, si on travaillait bien, il était content, mais il ne nous a jamais du tout aidés, alors que mes frères, il les a soutenus, surveillés, corrigés, encouragés, il les a fait travailler. Et comme disaient mes frères, tous les matins en se réveillant, ils disent « merci papa » tout doux, tellement leur père a été exigeant, le travail.
Et pas avec vous?
Non, il s'en fichait, les filles. Il s'est excusé auprès de moi. Il m'a dit, ma chérie, écoute, après, à la fin de ma vie d'étudiante, il m'a dit, écoute, excuse-moi, mais je ne pouvais pas m'occuper de toi. Alors, parce que j'aurais été fille unique, j'aurais fait ma médecine. Il m'aurait aidée, etc. Alors que je ne pouvais pas toute seule faire ma médecine. Donc, j'ai fait des études d'infirmière. Alors déjà, j'ai abandonné le latin après avoir pleuré sur Rosa, Rosa, Rosam. Je trouvais ça trop difficile. Alors le latin, à haute, j'ai fait B. Mais enfin, j'ai fait des études normales. J'ai passé mon bachot normalement. J'ai passé mon bac en 1939, l'année de la guerre. Et le résultat du bachot était donné dans les journaux. Et les Allemands qui occupaient notre maison, ils avaient un peu compris ça. Et ils sont arrivés vers moi avec le journal. « Mademoiselle Pironeau est reçue, Mademoiselle Pironeau est reçue. » Ils guettaient, ils regardaient beaucoup comment on vivait. Alors à ce moment-là, on se jetait pas dans les bras des Allemands. On était assez retenus. Mais eux, ils adoraient être dans notre famille, ils croyaient être avec leurs frères et sœurs. Aucun jeune n'est resté à Paris pendant la guerre. On pensait que ça serait épouvantable, les bombardements, les batailles, etc. Or, ça a été très calme, il n'y a pas de guerre dans Paris, mais il n'y avait aucun enfant dans Paris. Tous les enfants avaient quitté Paris. Ma sœur et moi, nous avons quitté Paris et nous avons été mis à Angers, qui n'était pas loin de notre maison de campagne. Et puis, il y a eu l'arrivée des Allemands au mois de mai. Alors là, ma mère a quitté Paris et elle est venue nous rejoindre. On a vécu complètement ces périodes de guerre, l'occupation. Notre maison, là, a été occupée, pas 4 ans, elle a été occupée 1 an simplement. Après, ils sont partis ailleurs et on a récupéré une maison très salie, mais pas démolie, très salie simplement. Bon, la vie a continué. Mon père était médecin pendant la guerre. Il continuait à aller voir les malades. Il y avait des enfants à Paris. Et tout le monde a continué à travailler pendant la guerre. Mon frère Roger faisait du français, l'histoire, des français histoire. Alors, lui, il a continuer et soi-disant à faire des études, mais il a fait de la résistance. Et mon troisième frère a été arrêté dans un réseau de résistance en 1941 et jugé, condamné à mort, il avait 19 ans, et exécuté 1 an après. Il a été 1 an en prison avant d'être exécuté. Exécuté en 1942. Au Mont-Valérien, fusillé au Mont-Valérien. Mais ça a été horrible. Il n'y a pas que mes parents. Nous, notre frère adoré, on était très très unis, 6 enfants. Ça a été horrible. Notre frère arrêté, jugé, condamné à mort et exécuté, ça a été horrible. On a souffert horriblement, horriblement.
Et la libération, vous vous en souvenez?
Ah oui, très bien. J'étais dans un tel état de joie qu'on a fêté ça à la fin de la journée. Alors je ne me rappelle plus beaucoup parce qu'il paraît que j'étais complètement ivre. On m'a raconté, c'était le dernier, il était 9h du soir, on avait eu des blessés de la rue un peu dans la journée, et puis à un moment on dit allez c'est fini, on rentre, on va aller se coucher. Alors, je me rappelle pas trop. J'étais tellement heureuse, folle de joie, je me rappelle pas trop. Et puis, on est rentré à la maison. Je me suis endormie tout de suite, mais endormie. On était dans un tel état. Je me suis endormie tout de suite. Et puis, à 3 heures du matin, il y a eu une alerte. C'est la seule alerte où nous sommes allés à la cave. Parce que l'alerte, c'était les Allemands qui étaient au-dessus de nous. Alors là, on a dit, faut pas rigoler, eux, ils vont peut-être nous bombarder. Alors ils ont bombardé des points spéciaux, mais pas la ville de Paris. Ce qui fait qu'on est allé à la cave, mais on en est remonté, il ne s'est rien passé. Et puis après, je suis parti dans l'armée. Mais alors dans un coin tout à fait calme, c'est-à-dire que les Allemands occupaient encore la zone atlantique. Et la zone atlantique, c'était pas grand-chose. Mais il fallait qu'ils s'en aillent aussi. Et les Français ont voulu s'occuper eux-mêmes de libérer ces coins où les Allemands occupaient, etc. Ce qui fait que j'étais infirmière dans ces ambulances-là. Si, j'ai travaillé longtemps, j'ai encore travaillé longtemps. Toute la guerre, j'ai été dans la résistance, quoi. C'était officiel, la résistance, ne pas obéir aux ordres des Allemands. On faisait tout à fait le contraire de ce qu'ils voulaient.
Je veux la porte.
Je sais pas où il est monté. Ah oui, il est là-bas.
Tenez.
Merci. Je sais plus où il faut appuyer.
C'est bon.
Allô? C'est Xavier, mais quel chant que ta voix.
La guerre a profondément marqué Marie-Jo. Après une enfance épargnée par ses blessures grâce à l'éloignement de la capitale, le traumatisme revient en frappant sa famille de plein fouet. Après ces moments douloureux, il est temps pour elle de construire sa vie de femme.
Alors après ça, c'est la Croix-Rouge qui m'a placée pour partir dans une ambulance chirurgicale et avec des officiers, médecins, tout un groupe médical. Et là, j'ai tout de suite connu mon mari, celui qui est devenu mon mari et qui a été très, très empressant, très vite. Et on s'est mariés. Et puis après, la guerre s'est finie plus vite qu'on ne pensait. Et après, beaucoup sont partis en Indochine. Et moi, ça a été fini. Je me suis mariée dans l'armée.
Et vous vous souvenez du premier jour où vous l'avez vu, votre mari?
Je me souviens très, très bien. Donc, j'ai vu mon mari là. J'ai vu beaucoup de gens. Et il y en a un quand même, il m'a très, très, très vite fait la cour. Il était très empressé. Sa demande en mariage est venue assez vite aussi. Donc, on s'est mariés assez tôt. On s'est mariés dans l'armée. On était dans l'armée, on s'est mariés, on est revenu dans l'armée, on est resté dans l'armée.
Vous étiez amoureuse de lui?
Bah oui, sinon je me serais pas mariée, j'étais pas obligée. Hein, là. Et après j'ai eu la chance de pouvoir hériter, d'aller habiter l'appartement de ma grand-mère à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, parce que le ravitaillement était encore difficile, elle n'était pas rentrée à Paris. Et elle m'a dit, écoute, si tu n'as rien, tu vas habiter mon appartement. Donc nous étions bien logés. Ça s'est bien bousculé parce que mariée, j'ai tout de suite attendu un enfant, j'ai continué à travailler. Mais cet enfant, c'était des jumeaux. J'ai eu des jumeaux 9 mois après mon mariage. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. À la campagne, là-bas, il y avait des petites jeunes filles qu'on engageait, qui venaient à Paris, qui s'occupaient de mes enfants, et j'ai continué à travailler. Alors à ce moment-là, j'ai commencé l'anesthésie. J'ai tout de suite très très bien appris mon métier. J'ai appris l'anesthésie, j'ai tout appris, j'ai très très bien travaillé.
Et vous avez aimé être infirmière?
J'ai adoré travailler comme ça, adoré. J'aurais pu ne pas le faire. Mais surtout que j'avais des jumeaux pour commencer. Et 10 mois après, j'en ai eu toute seule. J'avais 3 enfants tout petits. Mais j'avais une petite jeune fille formidable que j'avais ramenée toujours du Maine-et-Loire, qui s'occupait très bien le matin d'eux. Je tirais mon lait avant d'aller à l'hôpital. L'hôpital, c'était l'hôpital Brousset, très loin de chez moi. Je tirais mon lait, elle lui donnait mon biberon de lait. C'était ma troisième, la petite fille. Et puis je rentrais à 1h30. Je rentrais à 1h30 de l'après-midi. Alors l'après-midi, je m'occupais beaucoup, beaucoup de tout, de tout, de tout. Je l'envoyais promener les enfants au parc Monceau. Et moi, la maison, la cuisine, les courses, tout ça. Et le matin, je travaillais. Tous les matins, je travaillais. Alors après, j'ai eu d'autres enfants, oui, puisque j'en ai eu 6 en tout. Alors 2, celui-là, celle-là, au mois de septembre, quand j'ai commencé l'anesthésie. Et puis après, j'en ai eu 2. La fois suivante, j'en ai eu 1. Et puis la fois d'après, j'ai eu encore 2 jumeaux. Voilà. Enfin, ça, c'était quand même un peu compliqué. Hein. Le travail et trop d'enfants. Non, j'étais formidablement organisée.
Vous aviez un moyen de contraception ?
Ça, c'était le problème le plus compliqué. Hein, parce que mon mari était chrétien. Et alors, il voulait suivre des moyens chrétiens pour ne pas avoir d'enfants. Bon, enfin, ça faisait beaucoup de retenue, mais pas du tout d'interruption de grossesse ou d'interruption de normale, pas du tout, du tout. Hein. Que des choses très normales. Alors, quand ce n'était pas possible, les choses normales, ben rien. Pas de rapport, voilà. Ce n'était pas commode. Hein. Ça, j'ai gardé un souvenir épouvantable de ces longues années où il fallait comment calculer pour pas avoir d'enfants, mais quand même... répondre à un mari très pressant, etc. Oh là là, ça a été compliqué. Très compliqué.
Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mari très pressant ?
Ça veut dire que c'est un mari normal, qui a des besoins physiologiques, qui adore sa femme et qui veut, qui a très envie d'elle. Voilà, c'est tout. C'est très très simple. Ben oui, mais en même temps, quand il était... comme il était, chrétien, voulant pas faire des choses pas permises par l'Église, c'était pas commode. Hein. C'était pas commode.
Vous ne mettiez jamais de préservatif ?
Alors non, jamais de préservatif. Jamais. Mais j'ai gardé un souvenir épouvantable de cette période, comment faire, tout ça, j'avais quand même déjà j'ai eu 2 d'abord, un troisième enfant, j'avais déjà 3 enfants, j'étais encore très jeune, j'avais pas du tout envie d'avoir un enfant tous les ans, on n'était pas question. Bon, ça a été c'était très compliqué, très difficile. Mais il fallait surtout pour mon mari, c'était très difficile.
Et vous aussi, vous deviez vous priver ?
J'étais très chrétienne, je le suis encore, mais moins à regarder le petit détail, etc. Moins. Ça ne me préoccupait pas comme ça dans la tête, comme ça préoccupait mon mari. Et puis mon mari, nous entrons dans des détails, son caractère fait qu'il n'aurait jamais pu se retirer, ce qu'on appelle. Il n'aurait jamais eu la volonté de ça, alors il aimait mieux pas commencer. Donc il fallait être pas trop proches les uns des autres, voilà. On connaissait notre calendrier, on savait quand on pouvait, on savait quand on pouvait pas, on savait tout ça par cœur et ça.
Ça demandait beaucoup d'organisation.
Beaucoup d'organisation, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Vous n'étiez pas trop fatiguée ?
Non, j'avais une très très bonne santé, je l'ai encore. Jamais été malade, non, je n'étais pas fatiguée. Mais enfin, je travaillais, j'ai toujours travaillé, hein, même en ayant les enfants. Je partais à 7h30, j'habitais à la place de l'Étoile, et je partais à 7h30 à... Boulevard Binot, c'est très loin, c'était très très loin, en Solex, en métro, ça j'ai gardé un mauvais souvenir. Et puis tout d'un coup, heureusement, on a pu acheter une voiture, alors tout a changé. opérer, c'est rien. Opérer, c'est le souci du malade. Quand on s'est endormi un malade, moi, j'avais le souci qu'il se réveille bien, que ça se passe bien. Et ça, c'était beaucoup de soucis. Mais j'avais la chance d'habiter la maison à côté de la clinique, ce qui fait que je surveillais très facilement mes malades. Mais ça, je n'avais pas confiance en tout le monde et j'avais confiance en moi de voir qu'il se réveillait bien, que ça allait bien, que... Bon, ça, c'était très important.
Et vous avez travaillé jusqu'à quel âge ?
Alors, oh, j'ai travaillé... j'allais vous dire, je travaille encore. Non, mais avant d'entrer ici, j'ai toujours travaillé. J'ai jamais dit, j'arrête de travailler. Alors, l'anesthésie s'est arrêtée et j'ai travaillé formidable pendant 10 ans dans une école d'infirmières. Alors ça, j'ai adoré faire la formation des infirmières. On ne sortait pas du tout. On était trop fatigués de notre vie.
Et vous étiez heureuse ?
J'étais heureuse de la vie que j'ai menée. Au point de vue couple, j'avais un mari très contrariant, donc un peu pénible à vivre, Très contrariant de caractère partout, autant dans son travail que dans son ménage. Il était contrariant. Alors, les gens contrariants, c'est fatigant.
Ça veut dire quoi, être contrariant ?
C'est-à-dire jamais être d'accord avec ce que vous décidez, ce que vous organisez, ils ne sont pas d'accord.
Et est-ce que vous étiez amoureuse de lui ?
Je ne l'ai pas toujours été, parce que justement, je trouvais que j'ai découvert son caractère était trop difficile, trop pénible. C'était pénible. Donc, il fallait arriver à accepter, mais c'était pénible. Mais, ceci dit, je n'ai pas été malheureuse, je n'ai pas regretté un autre homme... Non, j'ai été bien mariée longtemps, très longtemps mariée. J'ai eu 6 enfants. Les enfants ont été heureux, bien élevés, des bonnes situations, travaillant bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut savoir quand même reconnaître ce qui est bien.
Marie-Jo n'est pas la première à nous évoquer un mari pressant. On comprend à demi-mot et à travers notre regard de jeune femme en 2020, que la question du devoir conjugal est posée. On comprend aussi pourquoi Marie-Jo s'acharne tant à développer sa vie professionnelle.
J'étais malheureuse à l'idée d'aller à Limoges. Ah, pour moi, je m'en faisais un monde. Quelle horreur d'aller en province, d'aller à Limoges. J'en étais malade. Et puis j'y suis allée, évidemment, quand même, quand mon mari a pris son travail à Limoges, chirurgien et tout ça. J'y suis allée et je me suis fait des amis. Formidable, j'ai eu des amies merveilleuses. Ma sœur a eu la même chose, elle est allée à Clermont-Ferrand. Elle pleurait de quitter Paris et tout ça. Elle s'est fait des amies merveilleuses. En province, les gens savent beaucoup mieux vivre qu'à Paris. Hein. J'ai découvert la vie de province, c'est très très bien la vie de province. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copines, c'est ce qui me prive ici. J'ai pas d'amis ici dans cette maison, j'ai juste mes... compagne de table, celle avec qui je prends tous mes repas, alors j'ai l'habitude de les connaître, elles sont gentilles et tout. Mais ici, je suis dans une solitude, là. Jamais la porte ne s'ouvre, jamais quelqu'un ne vient me voir, et je suis très très seule ici, très très seule. Alors mes copines, j'étais des copines de classe, surtout. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis. Et puis ça... C'est un culte pour moi, les amis. Très important.
Et même avec vos enfants et votre travail et votre mari, vous arriviez à les voir ?
Oui, j'arrivais à les voir. Oui. Parce qu'en province, j'ai habité à Limoges pendant 35 ans. Alors à Limoges, avec ma voiture, c'était quand même plus facile, même en travaillant, aux heures où je ne travaillais pas, de voir mes amis, de faire des choses ensemble, d'aller au ski ensemble, d'aller en montagne. Elle venait chez moi, j'invitais beaucoup à la campagne. Enfin, non, ça, j'ai eu des amis, ça a été très réussi. sur ce plan-là. Alors, c'est là où mon mari n'avait pas d'amis. C'était son caractère contrariant, etc. Il n'avait pas d'amis. C'était pénible, ça. Il n'avait pas d'amis. Enfin, il ne m'empêchait pas d'avoir mes amis. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Beaucoup. Et puis, des urgences la nuit. Et je disais toujours aux infirmières de nuit, si vous avez un problème, vous m'appelez, comme j'habitais à côté de la clinique. J'allais, je voyais le problème, je réglais le problème, la femme agitée, qui dormait pas, qui s'énervait, etc. Je réglais le problème et tout allait bien. Et je disais à mon mari en venant, c'est rien pour toi, c'était pour moi. Au début, quand j'ai habité Limoges, c'était très rare. Les femmes qui avaient des maris, qui avaient des situations normales, qui gagnaient bien leur vie, les femmes ne travaillaient pas.
Et pourquoi vous, vous avez travaillé ?
Alors moi, j'ai travaillé par l'intérêt du travail. L'intérêt du travail. Plus que par l'intérêt de gagner un peu plus d'argent, ce qui nous a quand même aidé. Parce qu'on a eu très vite cinq enfants. Et mon travail aidait un peu au budget quand même. Mon mari était d'accord et en plus, je travaillais avec lui. J'étais son anesthésiste. Alors, comme anesthésiste, je travaillais aussi avec d'autres chirurgiens. Je travaillais, mais j'étais un peu seule de mon milieu à travailler. Les autres femmes ne travaillaient pas. Et alors, ça posait tout de même une petite question pour moi d'être la femme qui travaillait, alors que les autres, elles étaient mères de famille, épouses de Monsieur X, mais elles ne travaillaient pas. Et eh bien, ça, je suis très fière de la façon dont j'ai pu à la fois, je vous dis, travailler. Je travaillais avec quelquefois le mari de mes amis. Mes amis, leur mari était chirurgien. Je travaillais avec ces gens-là et j'ai réussi à bien faire marcher les deux ensemble. Elles restaient mes amies et je travaillais pour leur mari. Enfin, ça a bien marché, ça. Et ça pouvait être difficile, mais ce qu'il fallait surtout, c'est ne pas en parler. Quand j'étais dans un groupe de femmes, je jouais au bridge de temps en temps, j'avais pas tellement le temps, mais enfin quand même, un peu, jamais je ne parlais de mon travail, jamais, jamais, jamais. Je ne disais pas, oh, ce matin j'ai eu un malade difficile. Non, parce que là, c'est créer la jalousie, etc. Les autres savaient que je travaillais, mais elles ne savaient pas quoi, qui, comment, etc. Donc ça allait très bien comme ça. Je suis très fière d'avoir réussi à la fois à travailler, à élever mes enfants. Enfin, élever mes enfants, j'ai eu des gens très très bien à mon service pour m'aider à élever les enfants, parce que je n'étais pas toujours là à table, je n'étais pas toujours là aux heures des repas, il fallait quand même que la vie se mène.
Et est-ce que votre mari l'aidait à la maison ?
Non, pas du tout. Mais ça n'existait pas. Il y avait tout ce qu'il fallait. Je pouvais, si j'avais pas assez avec ma cuisinière et ma femme de chambre, à un moment il y avait un peu trop de travail, je prenais trois heures par semaine une femme de ménage. Je prenais quelqu'un. J'avais de l'argent. Je pouvais payer. Ça c'est. Quand on a de l'argent, ça change tout, hein. Faut dire ça surtout. Les femmes qui n'ont pas d'argent, c'est horrible. Il y a des femmes qui ont des situations difficiles, tandis que moi, ma situation était bonne et mon mari était complètement d'accord avec moi sur mon organisation de maison, de travail, de tout ça. Il fallait que je sois disponible pour lui, pour m'occuper de lui, de ses malades. Quand j'avais des malades à endormir pour lui, il était prioritaire. Mais d'autres chirurgiens me demandaient si j'avais pas ce matin-là une opération pour mon mari, j'acceptais. Et ça, mon mari était d'accord.
Mais quand même, c'était vous, en plus de votre travail, qui dirigez la maison.
Oui, ah ben oui.
C'est pas votre mari.
Non, non, pas du tout. Le matin, très très tôt, avant l'opération, heureusement, mon mari ne voulait pas opérer trop tôt, il n'opérait qu'à 8h30. Avant 8h30, j'allais faire les courses et tout. On était loin du marché, mais mes domestiques n'allaient jamais faire les courses. Je leur apportais tout ce qu'il fallait. Elles avaient tout ce qu'il fallait. Elles n'allaient jamais faire les courses. C'est moi qui les faisais. Ça a été une très grosse charge, mais ça s'est bien passé. J'avais un personnel très gentil, très dévoué. Je suis bien obligée de reconnaître que j'étais forte quand même. J'étais forte dans le travail. Je savais comment faire. Je savais bien m'y prendre. Je m'entendais bien avec tout le monde. Je m'entendais bien avec les autres médecins. Voilà. Le plus difficile à vivre, c'était mon mari. Enfin, je manœuvrais comme ça. Il était très, très contrariant, etc. Il était difficile.
Après presque un siècle de vie, on peut dire que Marie-Jo en a connu des orties. La guerre, sa vie conjugale et la gestion du foyer ont été autant d'épreuves qui ont façonné son caractère de battante. Hors de question de renoncer à son travail et à sa vie sociale, quoi qu'il en coûte. Merci Laure de nous avoir présenté ta grand-mère incroyable.
Je crois que j'ai de la chance.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux @mamiepodcast et par mail à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.